Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire qui commence avec moi seul à l'animation. Mon collègue Alexandre Tardif s'absente pour cette semaine, mais sera de retour en force la semaine prochaine pour parler peut-être de quelques films du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qu'il aura eu le temps de voir, que j'aurai eu le temps de voir également. Pour parler d'autres nouveautés, évidemment, il y en a des très bonnes qui s'en viennent, notamment le plus récent Ken Loach, mais aujourd'hui, ben, on va faire un petit récapitulatif peut-être là, des deux dernières semaines, des films qui ont pris l'affiche et puis qui méritent votre attention, je crois. Là, y en a certains, là, je vais parler notamment là, de deux films là, qui ne prennent pas l'affiche ce vendredi à la Maison du cinéma, mais qui vont être au Festival Cinéma du Monde là, au courant de la semaine. Donc, c'est quand même pertinent que je vous en parle. Mais d'abord, là, si on fait un petit tour d'horizon là, des nouveautés de la semaine. Il y a la franchise d'horreur The Omen, qui est La Malédiction, je crois, en français. Là. Moi, c'est honnêtement un des premiers films d'horreur que je me souviens d'avoir vu. Là. J'étais tout jeune, mon père avait une collection en cassette de ces quatre films-là. Là. Essentiellement, c'est l'histoire là, de Damien, là, l'antéchrist, qui revient, qui naît sur Terre, en fait. Le premier, je pense, c'était réalisé par Richard Donner, là, qui est bien connu pour avoir fait par la suite The Goonies, pour avoir fait le premier ou les deux premiers Superman. Ce premier film-là, ben, était quand même... Il a été marquant pour moi. Ils ont fait un remake là, le 6 du 6 2006, donc le 6 juin, qui était évidemment pas aussi bon que le premier. Mais là, ben, il y a comme un antépisode qui sort ce week-end qui s'appelle La Malédiction, le commencement, c'est ça? Je sais même plus, je l'ai même plus devant les yeux. C'est ça, The First Omen, donc La Malédiction, le commencement, qui se veut en fait là, le récit d'une conspiration à Rome pour faire naître l'Antéchrist. Donc finalement, ce serait l'Église catholique ou en tout cas des gens possédés par le démon peut-être qui vont ramener Satan sur Terre. Cet antépisode-là, je sais pas, là, j'ai pas vraiment lu de critique. Je sais pas à quel point on l'a demandé, mais c'est quand même une franchise relativement iconique dans le cinéma d'horreur. Donc pourquoi pas. Une autre nouveauté que j'ai pas eu le temps de voir, là, celle-là, les critiques sont, j'avoue qu'ils sont assez mitigées, mais le film m'intrigue quand même un peu, là, c'est Monkey Man ou L'homme singe. C'est la première réalisation long métrage de Dev Patel, donc l'acteur britannique, qui joue également le rôle principal du film. On l'a décrit comme un John Wick. Semi-indien, là. Donc c'est une coproduction de plusieurs pays, mais ça se passe en Inde avec un prisonnier récemment libéré et puis qui a de la misère à vivre dans le monde dans lequel il vit, un monde très violent et un monde corrompu. Donc, je ne sais pas exactement où ça s'en va comme histoire, là, mais c'est ça, il y a beaucoup de scènes à la John Wick, un film d'action assez, je ne veux pas dire générique, là, mais assez conventionnel, si on veut. Quand même classé 16 ans et plus, donc ça doit être assez violent. Ça m'intrigue. Dev Patel, j'aime quand même bien ses films, évidemment, en tant qu'acteur. À la réalisation, je serais curieux de voir comment il s'en tire, mais il faudra... Faudra aller le voir. J'essaierai d'aller le voir si le temps me le permet. Il y a trois nouveautés. Il y a une autre nouveauté, en fait, qui prend l'affiche, qui est le film français Magnifica, duquel je vais parler dans quelques instants. C'est encore sur la religion. Là, j'ai l'impression que c'est comme tous les films religion related là, qui prennent l'affiche, là, peut-être parce que c'était Pâques la semaine passée. Historiquement, là, les films à Pâques, c'est souvent plus des films de familiaux, vu que c'est un long week-end. Mais là, c'est les films plus sérieux. Magnifica, là, je vais vous en parler dans quelques instants, mais c'est essentiellement là, l'histoire d'un prêtre qui décède, et puis on se rend compte que c'est une femme, et puis il y a une enquête par rapport à ça. Il y a également... Ben, c'est tout pour les nouveautés, parce que là, c'est ça, dans les prochains jours, là, à partir de mardi, il y a plusieurs nouveautés qui... Ben, nouveautés ou films qui vont prendre l'affiche dans le cadre du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un petit topo là, sur mes films incontournables. Je pense que oui. C'est ça, l'édition est un peu modifiée. Là. C'est du mardi au dimanche, là, alors qu'auparavant, c'était du jeudi au jeudi. Donc, une édition un peu plus courte, avec quand même à peu près 80 projections. Donc, c'est considérable. Et il y a notamment, au Festival Cinéma du Monde, c'est les deux autres films desquels je vais vous parler aujourd'hui, c'est Festin boréal, le nouveau long-métrage de Robert Morin, ainsi que Soleil Atikamekw, donc de Chloé Leriche. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'entretenir la semaine dernière avec Chloé Leriche pour parler de ce film-là. Vraiment un magnifique film sur l'histoire de cinq membres de la communauté de Madawan qui... sont retrouvées mortes dans un lac et puis dans les années 70. Et puis, évidemment, là, la SQ ne fait pas vraiment d'enquête sur tout ça. Et puis, ça laisse évidemment un trauma au sein des familles des concernés. Et puis, une réouverture un peu plus tard de l'enquête en 2016, mais qui ne donnera pas grand-chose. Bref, une histoire, évidemment, de laisser pour compte, une histoire d'injustice, de racisme systémique, mais vraiment très bien amenée, très bien présentée. Et c'est ça. Donc, vous pourrez entendre la réalisatrice un peu plus tard, justement, à l'émission. Dans les dernières nouveautés, là, parce que la semaine dernière, j'ai dû m'absenter, mais dans les dernières nouveautés, il y a King Kong, Godzilla et King Kong aussi, là, qui a pris l'affiche. Les critiques, ça aussi, sont particulièrement mitigées, surtout qu'on a eu un très bon Godzilla là, dans le temps des fêtes, là, Godzilla Minus One. Critiques mitigées, ça fait partie de cet univers-là là, qui inclut Kong Skull Island, le Godzilla de 2014. On essaie vraiment de faire un gros univers de ça. Le public est quand même au rendez-vous. Là. Ça a attiré quand même pas mal de recettes au box-office, mais la qualité des films est souvent à déplorer un peu. Un autre film que j'ai pas eu le temps de voir, c'est Hôtel Silence de Léa Poule, qui était de passage à Sherbrooke d'ailleurs la semaine dernière. J'ai pas pu assister au visionnement de presse ni rencontrer l'équipe, là, mais c'est un film que j'essaierai d'aller voir pour vous dans les prochaines semaines. Il y a également aussi Iris et les Hommes, le nouveau film. Là, je sais pas si j'ai son nom devant les yeux. Je ne l'ai pas, mais bref, c'était de la réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes. Un beau film, on pourrait dire quasiment initiatique, ou un film de pèlerinage là, qui mettait en vedette Laure Calamy. Donc celui-là, Iris et les Hommes aussi, mais en vedette Laure Calamy. Voilà. Avant d'entrer peut-être dans le cœur de mes critiques, peut-être qu'on en profitera pour faire une petite pause. Et au retour, on va commencer, je crois, avec la critique de Magnifica. Puis après ça, Soleil Atikamekw et l'entrevue avec Chloé Leriche. Donc restez des nôtres, on revient dans quelques instants.
Un jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Et voilà, on est de retour à Ciné Histoire pour parler d'abord et avant tout du film Magnifica. Nouvelle réalisation, j'ai retrouvé son nom, de Virginie Sauveur, qui met en vedette Karine Viard et François Berléand. Comme j'ai mentionné un peu en introduction, là, on suit un peu l'histoire de... non pas du prêtre là, qui est décédé, comme je vous disais, et qu'on remarque que c'est une femme finalement, mais plutôt de Charlotte, qui est la chancelière justement du diocèse et qui est en charge un peu de ce dossier-là. Donc le film s'ouvre bel et bien là, sur la mort de cette personne-là, sur le médecin qui n'a pas le choix de constater évidemment le sexe féminin du prêtre, et puis qui appelle tout de suite Charlotte, qui est en charge du dossier. Elle va le porter là, à son supérieur, qui est le Monseigneur Mével, donc joué par Berléand, et qui, évidemment, voudra étouffer l'affaire et surtout comprendre comment c'est possible. Je pense pas que j'ai besoin de vous rappeler que l'institution catholique est quand même assez rigide sur... la position homme-femme dans les... on va dire les... Bien, l'institution, dans l'Église, là, en fait, évidemment, une femme prêtre, ça n'existe pas, alors que ça se voit dans d'autres, on va dire, branches de la confession. Donc, il voudrait, c'est ça, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis, bien, ça va amener le Charlotte à fouiller un peu dans le passé du père et de... d'essayer de, c'est ça, de comprendre comment ça se passe. Donc, lui, c'était un enfant adopté. Et puis, est-ce que c'est une opération de changement de sexe? Est-ce que, parce qu'il est né, en fait, en France, ce qu'on appelle sous X. Et c'est né un homme, en fait. Donc, il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, je ne vous le dévoilerai pas nécessairement. Mais en parallèle de tout ça, ben il y a aussi une tentative de reconnexion, si on veut, entre Charlotte et son fils, là, qui est un... enfant problème, entre guillemets, là. C'est jamais trop élaboré sur c'est quoi ses problèmes, à part qu'il ne va pas à l'école. Mais c'est ça, donc, qui n'a pas de père non plus, là. Donc, Charlotte essaie de cacher l'identité de son père. Donc, elle cache quand même assez longtemps, mais finit par lui avouer un peu plus tard dans le film. Et donc, c'est ça, on les suit à travers aussi les campagnes françaises, là, parce qu'à un moment donné, il y a des gitans catholiques là, qui se joignent au film. Donc, je vais le dire d'entrée de jeu, au départ, là, c'était quand même... Je trouvais le film assez... assez rough, entre guillemets. Là, il y a beaucoup de l'exposition, là, d'expliquer c'est quoi les personnages, d'expliquer c'est quoi l'histoire. Il y en a beaucoup au départ, puis c'est rarement le signe d'un bon film, là, je vous le cacherai pas. Une scène bien, bien classique où il y a deux personnages qui se rencontrent, et puis là, il dit qui explique très clairement c'est quoi le nom des personnages, c'est quoi leur rôle, puis c'est ça. Un peu qu'est-ce qui va dicter le reste du personnage. T'sais, habituellement, je ne suis pas un très grand fan de ça. Le cinéma étant un médium visuel, tu essaies toujours de montrer un petit peu ou de trouver des façons contournées d'expliquer soit le backstory d'un personnage et tout. Bref, ça, c'est un film qui fait pas vraiment dans la subtilité, on va dire, dans les procédés scénaristiques. Mais par contre, après un certain moment, tu te laisses quand même un petit peu embarquer dans cette histoire-là parce que tu veux... veux pas là, essayer de résoudre un peu le mystère, faire la lumière sur comment ça c'est possible, est-ce que c'était juste on a remplacé le corps, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est pas non plus une si grande enquête, là. Le ton est relativement, je vais dire léger, même si c'est un drame et que c'est clairement pas une comédie. Là. Le ton est quand même, c'est ça, léger parce qu'on est plus dans... le parcours de Charlotte, plus que dans l'enquête sur pourquoi, comment ça a pu se passer. Donc, c'est un mal pour un bien. Tu sais, est-ce qu'on aurait pu prendre un film plus sérieux avec cette histoire-là? Probablement. C'est ça. Je pense que le ton était quand même correct. Mais c'est ça. Après certains moments, tu t'embarques un peu dans l'histoire, puis là, tu te mets à réfléchir un peu sur... évidemment, c'est un film qui questionne un peu là, la tradition versus la modernité. Là. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas être prêtre? Bon, c'est sûr que ça reste très, encore une fois, en surface ou très tiré à gros traits, là, comme du féminisme quasiment d'une autre époque. Là. Évidemment, il y a des hommes de l'Église qui sont choqués que quelqu'un puisse considérer qu'une femme soit prêtre. Là. Tu sais, toutes les scènes un peu classique de ce genre d'histoire-là, on les retrouve dans le film. Mais c'est ça, après ça, tu as les questions d'interdit. Bon, il y a la question entre Charlotte et le père de son fils aussi, qui est un interdit, celui-là aussi. Là. Elle a fait, grosso modo, un enfant avec quelqu'un qui n'est pas supposé en faire un ou qui ne peut pas vraiment prendre les responsabilités d'un père. Donc, ça amène, c'est ça, un peu ce questionnement-là sur l'interdit, sur... c'est ça, sur à quel point est-ce qu'on devrait faire évoluer les traditions en même temps que la société. Bon, c'est pas le seul film à le faire non plus, mais tu sais, il y avait quand même certaines réflexions somme toute intéressantes. Je vous cacherai pas que c'est probablement plus un film pour un public un peu plus âgé, puis pour les plus jeunes, ben c'est ça, peut-être le message féministe d'une autre époque, puis la fermeture un peu des hommes face aux femmes dans l'Église catholique va peut-être faire rouler des yeux un petit peu, mais globalement, tu sais, c'est ça, j'ai pas tout détesté de ce film-là, la réalisation est pas si mal non plus, on sent, tu sais, on va, je dirais que c'est ça, il y a quand même un certain élément de surprise au fil où l'histoire se défile. T'sais, je vous ai mentionné des gitans là, tantôt. T'sais, on peut pas vraiment prédire qu'on va se ramasser dans des gitans avec ce type d'histoire-là. Mais tout est relativement motivé. Bon, c'est sûr que c'est le dénouement final, sans être très spectaculaire, fait quand même du sens, mais celui-là, est-ce qu'on peut le voir venir ou pas? Je sais pas, ce sera à vous de vous faire votre tête. Donc, grosso modo, j'en sors pas avec une si mauvaise expérience ou un si mauvais sentiment, mais non plus, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui dépassent la couverte, entre guillemets, là, dans la façon dont on n'est pas supposé raconter l'histoire. Là, ça manque peut-être un peu de fluidité. Mais je pense que l'interprétation de Karine Viard vient sauver quand même aussi certains éléments. Donc voilà, vous ferez une tête là-dessus, Magnifica de Virginie Sauveur. Ben, ça prend l'affiche ce vendredi. Je vais enchaîner tout de suite avec d'autres films qui prennent l'affiche. Je vais y aller avec le film Soleil Atikamekw de Chloé Leriche. Donc c'est, encore une fois, un film d'enquête, mais assez atypique, encore une fois, parce que... Moi, j'ai trouvé... Bon, je rappelle l'histoire, là, grosso modo. Là, c'est cinq membres de la communauté de Madawan qui est en Laurentide, là, je pense, là, en tout cas au nord de Mont-Tremblant, et qui, après une soirée arrosée entre deux Blancs de Montréal et justement cinq membres de la communauté, sont retrouvés morts dans une vanne en plein milieu d'un lac. Et les deux Blancs s'en sortent et les cinq Autochtones ne survivent pas. Le cas est porté par... En fait, c'est les hommes de Montréal qui vont vers les autorités pour dire qu'il y a eu un accident. La SQ va repêcher le corps et fait identifier les victimes, mais ne semble pas vouloir... faire une enquête là-dessus semble conclure à c'est une fête qui a débordé puis qui c'est tout. Mais là, après ça, quand on regarde les corps un peu, on se rend compte que on dirait qu'il y a des lésions autres que de juste de la noyade. Puis le coroner non plus ne produit pas un rapport très exhaustif. Donc, à travers tout ça, on suit essentiellement la famille des victimes. La famille, d'ailleurs, il y a un petit élément méta. Là, d'ailleurs, on va revenir un peu sur le processus de réalisation là, du film. Mais il y a des acteurs, y a plusieurs acteurs non professionnels dedans, mais qui interprètent soit leurs grands-parents ou leurs parents. Là. Donc, c'est ça, Chloé Leriche a vraiment travaillé avec la communauté de Manawan pour, faire un peu, pas nécessairement de la lumière, là, mais parce qu'on ne sait pas plus à la fin du film qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Mais on essaie justement de peut-être c'est ça, souligner ce manque-là qu'il y a eu auprès de nos institutions, puis essayer de réfléchir justement au fait qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Bon, ça s'est reproduit pas très loin de là non plus avec Joyce Echaquan à l'hôpital, dans l'hôpital de Joliette, je crois. Mais bref, c'est ça. Ça montre que le progrès ne s'est pas vraiment fait depuis les années 70 non plus. Là. Oui, il y a des avancements ici et là, mais au final, c'est ça. Le racisme systémique est bel et bien présent. Et donc, c'est ça. Il y a une valeur un peu thérapeutique, j'ai l'impression, entre les gens de la communauté et... ce film-là, parce que je pense qu'ils n'auront jamais vraiment la lumière sur le sujet puisque l'enquête est bel et bien close sur le cas. Y a quelque chose, c'est ça, de vraiment particulier dans l'approche de Chloé Leriche. Une approche très visuelle. Il y a des beaux paysages, même si, vous allez l'entendre dans l'entrevue, là, c'était pas nécessairement le but de faire quelque chose de beau, mais c'était il y avait quand même une réflexion derrière le visuel du film qui est vraiment particulier quand on regarde le cinéma québécois en général. Moi, j'ai vraiment aimé justement le look du film et l'ambiance aussi, parce que là, c'est ça, c'est l'impact au final sur le père de la victime, sur le frère de la victime, je crois, sur ses enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose de perturbant, plus que de juste suivre une enquête ou de suivre une non-enquête, là, entre guillemets, vu que la SQ fait pas grand-chose. C'est vraiment de voir à quel point ça les affecte, eux, puis ça les affecte vraiment sur le long terme, parce que le film allie un petit peu le documentaire et la fiction. On commence dans du documentaire où là, c'est vraiment là, les enfants des victimes qui parlent de leurs parents, et puis après ça, on transite un peu vers la fiction, on replonge des fois vers le documentaire ici et là, donc l'approche est vraiment singulière, puis je crois vraiment que je veux pas dire un ovni, là, mais c'est vraiment un film qui... Je pense qu'il fera pas beaucoup parler de lui, mais qu'il devrait faire parler de lui. Je pense pas qu'il ça sortira pas à grandeur du Québec, là, ce film-là. Il faut vraiment s'y intéresser et puis trouver la salle de cinéma qui va le montrer. Heureusement, nous, on aura la Maison du cinéma et le Festival Cinéma du Monde. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulier, puis que c'est pas impossible que dans 5 ou dans 10 ans, ce film-là, on y revienne, qu'on le redécouvre un petit peu. Il y a vraiment, c'est ça, c'était vraiment particulier, j'ai adoré mon visionnement, et puis j'en dirai pas plus parce qu'on va entendre justement Chloé Lerich parler du film, mais s'il y a un film là, que je vous recommande là, au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, ben ce serait celui-là. Il y en a d'autres très, très bons, là, mais dans le cinéma québécois, j'en vois beaucoup des films québécois. Là, celui-là, il ressort vraiment du lot, sans être parfait, là, on s'entend, mais c'est ça. Il y a vraiment une approche particulière, une façon différente de faire du cinéma que j'ai vraiment apprécié. Donc, sans plus attendre, on va se laisser avec l'entrevue de Chloé Lerich et je reviendrai pour vous parler de Festin Boréal et peut-être faire mon petit tour d'horizon sur le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qui s'en vient. Donc, à tantôt.
Un jour je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script et dans le scénario il n'y a pas du tout de tragédie.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant ben j'ai le bonheur de m'entretenir avec la réalisatrice, scénariste, monteuse et productrice du film Soleil Atikamekw, Chloé Lerich. Bonjour Chloé, vous allez bien?
Bonjour, ça va bien.
D'abord, félicitations pour votre nouveau long métrage qui est vraiment très percutant et très pertinent. J'aimerais d'abord vous entendre d'entrée de jeu parce que, comme je le mentionnais juste avant, donc on suit, et ça, ben, c'est en fait une reconstitution de noyade suspecte à Madawan en 1977. Je serais curieux de vous entendre sur la première fois où vous avez été mise au courant justement de ces noyades suspectes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu même à l'extérieur de cette communauté-là, que ces morts suspectes-là?
Non, pas du tout. En fait, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, moi c'était en 2014, pendant que je tournais le film Avant les rues, donc mon film précédent, mon premier long-métrage. Et pendant le tournage, déjà, les gens me disaient « il faut que tu parles de 1977 ». Puis je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient à ce moment-là. Puis c'est venu un peu plus tard que j'ai rencontré une des membres des familles, Angèle Petitcoué. Puis c'est elle qui m'a dit non seulement... qui m'a expliqué un peu ce qu'elle avait vécu, comment elle avait perdu son frère dans cette tragédie. Et à ce moment-là, donc ça, c'était en 2014... On commençait à parler au Québec des femmes autochtones disparues ou assassinées. Il y avait la mise en place tranquillement qui se faisait là, de l'enquête nationale qu'il y a eu. Puis, de leur côté, eux, parallèlement, il y avait également, dans ce contexte-là, la commission Vient qui était en train de tranquillement se mettre en place. Et c'est dans la foulée de ces enquêtes nationales-là que la police se sentait peut-être un peu dans l'eau chaude par rapport à ce dossier-là, puis ils ont décidé de réouvrir l'enquête en 2016. Donc, à ce moment-là, on a commencé à en entendre parler au Québec, parce que sinon, avant ça, pendant 40 ans, personne... c'est vraiment un drame qui a été occulté et il y a eu un tabou dans la communauté qui s'est formé autour de cet événement-là. Donc, les gens, même de la communauté, n'osaient pas en parler entre eux. Mais je te dirais que dans les médias, tu sais, au moment de l'événement, il y a eu presque rien, là. Presque rien qui a été mentionné nulle part. Donc, ça a pris la réouverture de l'enquête, mais l'enquête, quand elle a été ouverte en 2016, elle ne pouvait même pas s'appuyer sur des preuves. Les preuves avaient toutes disparu. La seule preuve qui restait, c'était la déclaration des témoins. Puis c'était une preuve conjointe signée par donc deux témoins. Donc, elle a été tout de suite réfutée parce que c'était un document qui avait aucun sens. Là, qui, en tout cas, bref, bon, c'est là qu'on a réalisé que c'était une enquête qui avait été totalement bâclée. Puis la SQ, en réouvrant leur enquête en 2016, faisait un peu aveu de cette problématique-là. Tu sais, c'était une façon pour eux, je pense, d'admettre leur tort, là, si on veut.
Mm-hmm. Le processus du film, c'est ça a été un long processus, puis un processus aussi conjoint avec les membres justement de la famille des victimes. Parlez-nous justement de cette approche-là que vous avez qui mêle un peu le documentaire et la fiction dans une première partie, puis dans une deuxième partie, pourquoi avoir justement voulu mélanger un peu ces deux genres-là plutôt que d'avoir opté seulement soit pour le documentaire, ben, il est en grande partie fiction, là, mais pourquoi ne pas en avoir fait justement un documentaire puis avoir voulu aller dans la fiction?
Mais moi, je trouve que le cinéma puis la fiction, je trouve que ça parle différemment aux gens. Tu sais, j'adore comment c'est détourné en quelque sorte, puis on parle au niveau de l'émotion tout le temps et non pas de l'intellectuel. C'est plus viscéral, si on veut. Là. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais en même temps, de mélanger le documentaire à ce film-là, c'était essentiel, puis c'était important parce que ça ancrait le récit dans quelque chose de... Ben, dans le réel, en fait. Puis je pense que le genre hybride comme ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, non, mais qui est hyper intéressant. Puis au niveau de mes processus de travail, c'était aussi quelque chose qui était intéressant. Tu sais, parce qu'au départ, j'avoue que j'hésitais entre faire un documentaire ou une fiction, mais j'aime beaucoup comment la fiction parle directement au cœur des gens. Là. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Comment on peut ajouter, par exemple, de la musique, du son, créer des ambiances, puis amener les gens dans des zones, leur faire vivre des émotions.
Mm-hmm.
J'adore faire ce travail-là.
Puis
la première partie de ta question, peux-tu me la rappeler?
Oui, bien, en fait, du processus un peu là, de collaboration qui s'est instauré entre les gens de la communauté et puis les gens de l'équipe du film et vous, là, justement, il y a certaines acteurs ou actrices là, qui jouent des fois leurs grands-parents, mais ça a été un processus collaboratif, là, à ce que j'ai compris?
Oui, c'est ça. Dès le début du projet... J'ai commencé à faire des projets plus artistiques avec les gens des familles, c'est-à-dire que j'ai fait un projet photo avec eux tranquillement, puis le langage cinématographique du film est né de ce projet photo-là. C'était une manière pour moi d'entrer en relation avec eux, puis de leur parler, pour plutôt que de parler directement des événements puis de la douleur qu'ils avaient ressentie, parce qu'on en revenait toujours à ça, tu sais, veux pas. Mais c'était une manière pour moi d'aborder les choses autrement, par le biais de la création, par le biais des ateliers d'écriture. Tu sais, j'ai fait quelques exercices comme ça, mais ça permettait de développer des liens autrement, d'échanger autour de la création du film, de leur faire comprendre aussi que, tu sais, parce que j'allais vraiment réinterpréter leur histoire, là, tu sais, moi-même, puis il fallait que j'aie de la latitude, qu'ils comprennent que c'était pas la vérité que j'allais leur montrer. J'ai fait une enquête approfondie, même peut-être même plus riche que celle que la police a fait, parce que je l'ai fait sur quelques années, puis en rencontrant vraiment tout le monde. Mais voilà, tu sais, final, l'idée, c'était quand même de faire un film puis de partager cette histoire-là avec les Québécois et les Québécoises pour pouvoir questionner un peu nos rapports avec les Premières Nations. Puis c'est pas juste en disant, ben il y a du racisme ici, puis il y a beaucoup de racisme au sein de nos institutions publiques. C'est pas normal. Mais en montrant aussi que il y a toute l'indifférence aussi,
mm-hmm,
qui fait très mal.
Oui, qui est probablement même plus dommageable que... Ben, c'est ça qui est plus dommageable.
Ouais. Ouais. C'est clair, parce que, tu sais, il faut absolument qu'on refuse d'accepter que ça se produisent encore en 2020, en 2024. Tu sais, mm-hmm, quand tu te rends compte que le racisme de tes institutions mène à la mort d'une femme, comme c'est arrivé à Joyce Echaquan, ouais, ben là, tu te dis que ça suffit. Là, on peut pas comme on peut pas continuer à faire comme si comme si les choses évoluaient, tu sais. Puis quand je pose des questions aux gens qui travaillent dans ce domaine-là, ben, tu sais, malheureusement, ce qu'ils me disent, c'est que la problématique est encore très présente. On a l'impression, nous, que c'est un peu réglé parce qu'on en a parlé dans les nouvelles, mais c'est pas le cas, tu sais. C'est encore là. Ça va prendre du temps, puis des efforts, puis beaucoup de choses pour comme que les mentalités se changent profondément, tu sais.
Vous l'avez mentionné un petit peu, là, dans le fond, c'est l'objectif du film, c'est de... Parce qu'avec l'enquête qui est de 2016, là, qui a mené à peu près à rien, là, il y a très peu de chances qu'on fasse la justice sur ce qui s'est bel et bien passé. Le film veut un peu mettre en lumière cette injustice-là pour nous, mais il y a vraiment un processus un peu thérapeutique, j'ai l'impression, avec les familles des victimes. Quel a été leur retour, justement, envers vous, là? Est-ce que ça met un baume sur leur plaie parce qu'on ne peut pas régler nécessairement cette injustice-là? Là, est-ce que, pour eux, le processus était davantage thérapeutique que de mise en lumière ou de décrier cette injustice-là?
Bien, c'est sûr. C'est sûr que ça leur... Il y a eu le processus, mais après, quand le film se rend dans les salles puis que les salles sont pleines de spectateurs, les gens des familles, là, elles vivent quelque chose de fort parce que c'est partagé de manière collective. Puis là, on rend justice un peu à la mémoire de leurs proches. Mais au-delà de ça, tu sais, l'idée, c'était aussi pour moi de raconter une histoire forte puis qu'on en vienne à... C'est sûr que, tu sais, mon but, ultimement, tu sais, c'est peut-être qu'on ait de meilleures relations entre allochtones et autochtones. Mais en même temps, pour moi, quand je veux faire du cinéma engagé comme ça, du cinéma militant, à la base, je veux aussi raconter des histoires, puis des histoires qui nous permettent de nous questionner puis d'approfondir des choses, mais c'est aussi... Je fais du cinéma, là.
Ouais. Je veux souligner cet aspect-là parce que il m'a quand même vraiment marqué. Puis je veux parler un peu justement de la signature visuelle du film, qui est vraiment magnifique. Il y a vraiment de très beaux plans. Et puis une direction artistique vraiment assumée, là. Pouvez-vous nous en dire un mot puis peut-être parler un peu de la symbolique derrière cette signature-là?
Ouais, ben la direction artistique, by the way, c'est la directrice artistique du film, c'est une Atikamekw originaire de Wemontashi.
OK.
C'est sa première direction artistique, puis elle a fait un travail extraordinaire. Mm-hmm. Julie Christina Piché, elle est hyper talentueuse. Puis le directeur photo, Glauco Bermudez, c'est un allié. J'ai travaillé avec lui sur Avant les rues aussi. Puis là, visuellement, on avait envie d'aller encore plus loin. Donc on a c'est un film qui est très travaillé. Il faut se remettre dans le contexte aussi. On le fait en pleine pandémie, là, mm-hmm. Fait que on avait le temps.
Hein? Ouais.
Tout était fermé, puis on n'avait que ça à faire pour aller bien travailler. mais c'est ça. Donc on a travaillé vraiment très fort, puis c'était super important aussi parce que c'est au cinéma, moi, je trouve ça le fun d'avoir des images fortes, pas nécessairement de belles images. Tu sais, elles sont pas conventionnelles. Ça, je faisais toujours attention pour dire à tout le monde, hey, c'est trop beau, on arrête, on recommence, on trouve un autre angle, on enlève un morceau. Tu sais, je veux pas que ce soit trop beau parce que des fois, au cinéma, c'est méga esthétisant tout. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, la signature visuelle forte, c'est ça. C'est parce qu'on est des perfectionnistes, on adore l'image, on adore la lumière, on avait le goût que ce soit un super beau film, puis c'est le fun parce que c'est ce qui fait aussi que le film il se rend loin dans des festivals puis qu'on gagne des prix, tu sais, les gens ils capotent sur l'image là, puis c'est vrai que j'en suis fière, là, tu sais, elle est très travaillée là.
Ouais, vraiment, puis c'est vraiment à voir sur grand écran, puis d'ailleurs j'en profite pour mentionner que le film sera présent au cours du 11e Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. La projection prévue est le 10 avril à 12h30, donc il ne faut pas la manquer parce que c'est sur grand écran, là, c'est vraiment sublime. Chloé, évidemment, on souhaite longue vie au film, on souhaite qu'il tourne dans le plus de salles possible pour stimuler un peu peut-être cette discussion-là, cette rencontre entre les allochtones et les autochtones. C'est ce que le film propose et c'est vraiment un excellent film pour vrai. J'ai vraiment adoré. Chloé Le Riche, votre nouveau film Soleil Atikamekw sera de passage en notre ville le 10 avril, je le répète. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Oui. Puis j'aimerais vous dire aussi qu'il va être en salle de cinéma après donc le festival. Puis si vous voulez avoir la chance de le voir, il faut se déplacer le premier week-end pour que la salle le garde une autre semaine encore, puis qu'il y ait encore plus de gens qui puissent voir le beau film sur lequel on a travaillé pendant 8 ans.
Oui, exactement. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Chloé.
Merci, bye-bye.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Collés les uns aux autres sans arrêt. Si on...
Vous êtes de retour à Ciné Histoire, donc allez le voir, Soleil Atikamekw, vous ne le regretterez pas. Je vais vous parler d'un autre film là, qui va être de passage à Sherbrooke là, la semaine prochaine, c'est Festin boréal, le nouveau long-métrage de pas mal un de nos plus grands auteurs, ben auteurs en fait... Ouais, c'est une expression anglophone, le auteur, mais en fait, cinéaste, on va dire, là, indépendant, cinéaste de films d'auteur, là, Robert Morin, donc j'ai fini par le dire. Festin boréal, une proposition vraiment, vraiment... si vous connaissez son cinéma, là, il fait des films comme Le problème d'infiltration, il fait des films comme Windigo, comme Papa à la chasse au Lagopède, je crois. Là. Donc, que Dieu bénisse l'Amérique. Des propositions vraiment très originales, souvent des comédies noires, des critiques sociales, un cinéma sans compromis. Et puis, ce nouveau film, c'est un peu ça. C'est un film où il y a zéro dialogue. Il est quand même assez court, là, 75 minutes. Zéro dialogue. Essentiellement, on suit un orignal qui se fait chasser par un chasseur et qui réussit à échapper au chasseur, mais qui va mourir en pleine forêt. Et puis là, le film se concentre en fait sur tous les animaux qui vont dépecer l'orignal. Donc, on commence évidemment par quelques insectes. Après ça, il y a des petits... des renards, là, par exemple, qui vont le picosser, des corbeaux, des oiseaux, des aigles, et même des ours. Donc, il y a tout ça. C'est vraiment difficile. Je veux pas nécessairement tout spoiler, entre guillemets, du film. Là. Il y a une histoire, là, mais c'est plus, on va dire, un cinéma expérimental qui force la réflexion, tu sais, qui te demande toujours bon, pourquoi est-ce que je suis en train de voir ce film-là? Puis quand on regarde la pochette, on voit que c'est comme plein de petits animaux qui, dans un collage, qui ensemble forment un orignal. Donc on comprend qu'il y a cette question peut-être de la chaîne alimentaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là. Donc justement, là, l'espèce de... de chaînes qui se forment entre les dominants et les dominés. On la comprend quand même assez rapidement, ce message-là. Puis après ça, on transite un peu à la fois, on suit ce cadavre-là pendant à peu près un an. Et puis après ça, quand l'hiver arrive, le cadavre, évidemment, est comme recouvert de neige. Et puis là, il y a des populations autochtones. On sait que Robert Morin est quand même très proche des communautés et de la protection de leur culture et tout. Donc, qui arrive. Puis c'est quoi la place, justement, des humains dans cette chaîne alimentaire-là, dans cette jungle des espèces vivantes. Et puis après ça, il arrive... pendant quelques temps, l'industrie forestière qui s'en vient couper des arbres en plein milieu de l'hiver, en plein milieu de la forêt boréale. Puis c'est ça, après ça, au printemps, tout renaît, entre guillemets, et le cadavre est de plus en plus décomposé ou disparu. Donc c'est cette... C'est cette fable-là un peu là, qui questionne peut-être notre rapport à la nature, qu'est-ce qui nous est dû versus qu'est-ce qui ne l'est pas. L'orignal est mort, a permis de servir, a permis de nourrir plein d'animaux, mais il est mort de l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine qui détruit les forêts boréales. Est-ce qu'elle lui est due? Est-ce que c'est parce qu'on est plus fort que les forêts ou que ces animaux-là que nécessairement ces ressources-là nous sommes dues? Il y a toute cette réflexion-là. Il y a aussi un petit peu de comédie là-dedans, comme on la connaît bien chez Robert Morin. C'est vraiment un visionnement particulier. J'ai vraiment bien aimé, même si j'avoue que le message, on le comprend quand même assez rapidement, puis il se renouvelle pas nécessairement très, très vite. Là. C'est la première moitié du film, pas mal, se concentre sur les animaux justement qui vont picosser le cadavre. Puis la deuxième, ben là, c'est la réflexion un peu sur la nature. C'est ça. Je crois qu'il y a peut-être un peu de redondance dans le message, mais c'est vraiment une approche tellement particulière qui fait penser un petit peu à EO, film polonais là, qui est sorti il y a 2 ans, qui était en lice pour l'Oscar. Du meilleur film international. C'est ça, même au hasard Balthazar. Là, donc, explorer la nature humaine à travers les animaux, à travers un animal. Bon, dans ce cas-ci, il est mort, là, mais c'est ça. Donc, réflexion très intéressante, critique vraiment assumée. Décidément pas un film pour tout le monde. Là, tu sais, il se passe pas grand-chose. Mais c'est très bien filmé quand même, puis... Il y a certains plans que je me demandais, bon, comment il a réussi à tourner ça? C'est quoi la partie qui est stagée versus la partie qui ne l'est pas? J'ai pas la réponse, malheureusement, mais ça me faisait penser beaucoup au documentaire animalier là, David Attenborough, où on veut pas nécessairement interférer sur la chaîne alimentaire, sur qu'est-ce qu'on est en train de voir, mais des fois, il faut filmer des choses dures, comme une attaque d'un loup par deux ours, ou des morses qui... Là, je prends des exemples extrêmes, là, mais bref, des morses qui se tuent en tombant de falaise ou des trucs comme ça. Eux, évidemment, veulent pas intervenir là-dedans. Bon, ça m'amenait à me questionner un peu sur... la façon dont ça a été filmé, puis justement l'intervention humaine ou pas à travers tout ça. Là, mais c'est vraiment un film pertinent, je crois, puis qui vaut le détour, qui vaut peut-être les discussions surtout qu'on va avoir avec les personnes avec qui on irait le voir. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, l'interprétation qu'on peut en tirer. Vraiment, c'est un film à part. Ça aussi, c'est un autre ovni. Là, Robert Morin en a plusieurs à son actif, mais c'est un autre ovni qui vaut vraiment le détour. Donc, allez voir ça, Festin boréal. Ce sera de passage au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke la semaine prochaine. Parlant de ce festival-là, j'en ai parlé quand même pas mal jusqu'à présent, mais tout de suite après la pause, je vais vous faire un petit tour d'horizon là, des films incontournables, selon moi, dans cette 11e édition. Et puis, vous présenter aussi là, quelques films en compétition. Donc, manquez pas ça, on revient dans quelques instants.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
Terminons cette émission en vous présentant quelques films de la plus récente édition du Festival de cinéma du monde de Sherbrooke qui se tiendra de mardi 9 avril au dimanche 14, c'est bien ça, 14 avril. Je commence tout de suite avec le film d'ouverture là, que je n'ai pas vu encore, mais j'aurai la chance de le voir et de m'entretenir avec l'équipe du film. Donc, dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, le nouveau projet de Lynn Charlebois qui met en vedette Mylène Maquet, Alexandre Goyette, Sylvie Moreau, s'intéresse en fait à la correspondance entre le frère Marie-Victorin, là, qu'on connaît pour avoir fait fonder, je crois, le jardin botanique, pour avoir écrit beaucoup sur la botanique en général, et Marcel Gauvreau, son étudiante. Donc, c'est ça, j'en dirai pas plus. Évidemment, les films d'ouverture et les films de fermeture là, d'un festival, c'est toujours des films un peu plus rassembleurs, grand public et tout, ce qui n'est pas une mauvaise chose nécessairement, mais c'est ça, le film va avoir quand même une large sortie. Il est produit par Roger Frappier, là, donc pas n'importe qui. Donc, vous aurez l'occasion de le voir là, si jamais. Habituellement, historiquement, la soirée d'ouverture est pas mal toujours sold out, donc si jamais vous n'avez pas la chance de vous procurer des billets, vous pourrez le voir un peu plus tard en salle. Mais il fait sa première... mondial, entre guillemets, au Festival Cinéma du Monde. Je vous invite, moi, à 2 événements, là, les Ciné-Campus. Donc, c'est des projections de courts-métrages d'animation qui auront lieu sur l'heure du dîner à la petite salle du Centre culturel mercredi le 10 et jeudi le 11 avril. C'est des courts-métrages animés là, tirés du Festival international du film d'animation d'Annecy. Toujours un mélange de films expérimentaux, de films... T'sais, c'est de l'animation pour adultes là, quand même. Là. C'est pas des films pour enfants. Toujours, c'est ça, un peu d'expérimentation, élargir ses horizons. C'est toujours des propositions très originales que le FCMS nous fait. Donc, vous ne voudrez pas manquer ça. Soleil Atikamekw, comme je vous mentionnais, là, va être projeté le 10 avril à 12h30. Il y a Le règne animal aussi, là, le film qui a récolté le plus de nominations au César cette année, là, l'espèce de dystopie avec Romain Duris. Là, donc, lui, ça sera le mercredi 10 et le samedi 13 avril. Si vous avez manqué le plus récent gagnant du film d'animation, de l'Oscar du film d'animation, Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki, ben, il sera projeté deux fois également. Même chose pour Vers un avenir radieux là, qui était sorti en automne dernier de Nanni Moretti, bien-aimé du festival. Donc, lui aussi, il y aura deux projections mercredi et samedi. Il y a L'enlèvement, le nouveau film de Marco Bellocchio qui a l'air quand même assez intéressant. Il était de passage à Cannes, je crois, l'année dernière ou en 2023. C'est ça. Moi, c'est un des films là, que j'ai le plus hâte de voir. Je crois qu'il n'a pas encore fait sa sortie, partout au Québec, là, donc ça sera l'occasion de la voir. Dans les événements aussi, ben, il y a Bistro Brain, hein, qui est nos collègues, qui enregistrent ici dans nos studios, qui présente une soirée de vulgarisation scientifique autour du thème de la science-fiction. Je crois que c'est au BOC. Un événement là, qui nous sort un petit peu des salles. On a Sur l'Adama, qui est en compétition aussi, là, le documentaire qui a gagné l'Ours d'or, là, à la plus récente Berlinale. Pas la plus récente, mais celle de l'année dernière, en fait, puisque la plus récente s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Caravage, j'en avais parlé déjà à l'émission aussi, là. C'est un beau film à voir sur grand écran, je crois. Festin Boréal, il va être présenté jeudi le 11 avril et samedi le 13 avril également. Sinon, Je verrai toujours vos visages, lui aussi est en compétition. On en avait parlé, moi c'est un de mes films préférés de l'année dernière, donc allez voir ça. Tout comme Godland en compétition aussi. Vraiment un très beau film à voir sur grand écran, là. Jeudi le 11 avril et samedi le 13 avril. Il y a la soirée estrienne, comme toujours aussi, le jeudi 11 avril à 18h. Donc, il y a une compétition de court-métrage de la région qui est projetée. Donc, c'est toujours un bel événement avec beaucoup de personnalités de la région et puis les cinéastes, évidemment, là, qui sont là dans la salle. Sinon, il y a le Monstre aussi, Monster de Hirokazu Koreeda, le cinéaste japonais là, qui fait deux films par année de ce temps-ci. Là. Il est très, très productif, mais c'est pas mal un de ses meilleurs. Là. Donc, le film va être présenté jeudi le 11 avril et dimanche le 14 avril. Une histoire un peu à la Rashomon, là, si vous connaissez le cinéma d'Akira Kurosawa. Une histoire ou une situation qui se passe de trois points de vue différents puis qui se développe un peu là, ses layers, ses couches. Le vendredi 12 avril, il y a un film très attendu quand même, là, Carnaval d'Henri Pardo, qui va jouer ce vendredi et dimanche. Ça a gagné, là, je ne me souviens plus exactement lequel, mais ça a gagné un prix au Festival Cinémania, si je ne m'abuse, ou au Rendez-vous Québec Cinéma. Là, j'avoue que j'oublie lequel, mais vraiment un film très attendu et très bien reçu par la critique. Adam change lentement, un film d'animation aussi... film d'animation pour adultes sur la puberté, entre autres. Là. Vraiment, lui aussi a gagné des prix au Japon, notamment. Donc, lui, il m'intrigue quand même beaucoup. Donc, il sera présenté là, le vendredi 12. Umberto Eco, La bibliothèque du monde, donc l'auteur, le célèbre auteur qui a aussi une impressionnante bibliothèque et qui réfléchit un peu à la place de la littérature dans son œuvre. Documentaire vraiment très intéressant. Les filles d'Olpha, ça aussi, il était au plus récent Oscar, là, je ne me souviens plus pour quel pays exactement, là, mais c'est ça, il était en nomination pour l'Oscar du meilleur film international, donc vendredi et samedi, il sera projeté à la Maison du cinéma. Je vous conseille également La Bête de Bertrand Bonello. C'est aussi le nouveau le cinéaste français là, qui revient avec un film qui m'en vedette télé assez doux et comment il s'appelle? Harry Dickinson, je crois. Donc, quand même très attendu. Lui aussi va faire sa sortie là, éminemment au Québec. The Promised Land, si vous l'avez manqué, là, la soumission aux Oscars pour le Danemark, je crois pas qu'il s'était ramassé, là, qu'il avait eu une nomination, mais c'est ça, un très bon film danois de Nicolai Arcel. Sinon, ben, il y a toujours... Mais il y a deux spectacles. Il y a le spectacle, évidemment, de l'Orchestre du 7e art, mais aussi le spectacle Les Ordres dans le désordre. Malheureusement, c'est complet, là. Mais il y a ça qui est prévu. Il y a des soirées aussi pour enfants le samedi et le dimanche là, à la Maison du cinéma. Et ben le film de clôture, en fait, je vais en parler la semaine prochaine parce que lui aussi, il va faire sa sortie le jour de sa clôture, ou peut-être un petit peu après. Mais c'est... attendez, là, je retrouve le nom. Là, c'est... une année difficile, voilà, d'Éric Toledano Olivier Nakache, voilà. Donc, c'est le duo de réalisateurs là, qui sont derrière Intouchable, notamment, et Hors Normes, là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ça m'en vedette Jonathan Cohen, donc si vous l'appréciez, là, une belle découverte des dernières années pour le cinéma comique français. Pio Marmaille également, et Noémie Merlant. Donc, un film encore une fois rassembleur, comme je vous disais, mais la bande-annonce laisse présager des choses bien, donc ça questionne un peu là, les mouvements de revendication en France des derniers temps, et notamment ceux des fermiers. C'est pas mal ce petit tour d'horizon-là, en espérant vous croiser dans les salles. Je ne ferai pas beaucoup d'animation cette année, comme c'était mon habitude, parce que ben, la vie est rendue plus compliquée et mon horaire du temps plus chargé que jamais. Mais je serai quand même au ciné-cours, donc à la petite salle du Centre culturel, les mercredis et jeudis sur l'heure du midi. Donc, venez nous voir, venez en grand nombre, vous pouvez amener votre lunch et dîner en regardant des films d'animation parfois edgy, souvent expérimentaux, mais toujours divertissants. Donc voilà, c'était tout pour cette émission de Ciné Histoire. La semaine prochaine, on vous parle du plus récent film de Ken Loach. On vous parle d'une année difficile et évidemment, on fait un retour sur cette édition, cette 11e édition du FCMS. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et bon visionnement.